Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit : ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent : Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela va se réaliser ? Jésus répondit : prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Et Jésus ajouta : on se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et ça et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront, et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Dans les fiches de Saint-Brieuc qui sont utilisées pour préparer la liturgie, il y est marqué qu'aujourd'hui, comme l'évangile est un peu terrifiant, on pourrait chanter à la fin de l'homélie « N'aie pas peur, laisse-toi regarder par le Christ, n'aie pas peur ». Nous sommes d'une certaine façon un petit peu réticents à tout ce qui pourrait être des perspectives un peu fortes. Aujourd'hui, il faut que tout soit lisse, il ne faut pas faire de vagues, il n'y a pas de problème. Mais vous avez remarqué que Jésus ne se soucie pas des sondages ni de sa popularité. Il ne vient pas pour être réélu et Jésus va jusqu'à dire à ses disciples que ce magnifique temple de Jérusalem, qui était tout neuf à son époque, puisqu'on avait terminé la reconstruction il y avait simplement quelques années. Donc quand vous voyez à la télévision, par exemple, le mur des Lamentations, c'est tout ce qui reste actuellement de visible de ce temple. Lorsque vous voyez ce mur des Lamentations avec des pierres qui chacune sont hautes de certainement au moins 2,50 m, c'est immense comme construction, c'est beau, c'est magnifique, et les disciples admirent. Quand on est sur le mont des Oliviers de l'autre côté, on voit le temple et on ne peut qu'admirer effectivement, et la muraille et le temple lui-même. Et Jésus va dire : ce que vous contemplez, eh bien des jours viendront où tout sera détruit. C'est curieux comme parole dans la bouche de Jésus d'annoncer la destruction du temple. Pourquoi le fait-il ? Pourquoi avait-il besoin de le faire ? Pourquoi tient-il à couper l'herbe sous le pied de ses disciples, à leur éviter d'avoir une admiration trop béate ? Point d'interrogation, pourquoi ? Sans doute parce que déjà, ou plus exactement, ça va se passer encore un petit peu après, Jésus va avoir d'autres paroles où il va dire que on n'a pas voulu l'accueillir, lui le Fils de Dieu, on s'est fermé à son message, et Jésus va pleurer à ce moment-là. Et quand on est à Jérusalem, il y a un endroit qui s'appelle Dominus Flevit, le Seigneur a pleuré, et là on a construit une petite église pour rappeler cet épisode. Jésus, voyant la ville de ce point de vue, a pleuré avec la perspective dans son esprit que par son infidélité, par son refus de s'ouvrir à son message, eh bien elle va quelque part s'auto-détruire elle-même, s'effondrer sur elle-même quelque part, ou plus exactement, eh bien ce sont les Romains qui vont opérer cette destruction. Ça s'accomplira 40 ans plus tard, en l'an 70. Titus mettra les armées en assiégeant Jérusalem et on mettra Jérusalem à feu et à sang, et c'est assez tragique quand on lit aujourd'hui les reconstitutions qu'on peut en faire. Il y a un roman historique de Patrick Bannon qui s'appelle Flavius Joseph, je crois, et qui raconte ça en détail, le siège de Jérusalem. Ça a été épouvantable. Il y a dans l'histoire humaine des événements qui traversent l'histoire et qui sont terriblement tragiques. Qu'on songe par exemple aux deux guerres mondiales du XXe siècle, on célèbre en ce moment le centenaire de la Première Guerre mondiale. Pourquoi Dieu laisse-t-il faire des choses semblables? Pourquoi? Point d'interrogation. Sans doute parce que vraiment il laisse l'homme libre, libre de se tromper, libre de s'égarer, libre d'errer et libre de se livrer au mal. Et ça, c'est très mystérieux pour nous. Nous voudrions vraiment que, comme le fait une maman avec son petit gamin de 2 ans, Dieu nous empêche de faire le mal. Mais ce serait nier la consistance de notre liberté. Elle est réelle. En célébrant la messe cette semaine à la Marpas, à Saturnin, une des grand-mères qui était là disait « Oh, Dieu est bon, Dieu est très bon, il pardonnera tout, il est tellement bon. » Je lui dis « Mais allez-y, continuez, mais... » Vous êtes en train de saper la consistance de votre propre liberté. Vous dites que quoi que vous fassiez, c'est du pari au même. Non, ce n'est pas vrai. Nous sommes libres d'aller vers le bien ou de nous diriger vers le mal, individuellement, familialement, communautairement, sociétalement. Et donc, il y a des conséquences des actes que nous posons. Et Dieu laisse aller les conséquences jusqu'à leur terme. À certains moments, sauf si de grands priants s'interposent pour demander à Dieu d'épargner. Mais Dieu laisse aller les conséquences jusqu'à leur terme. Et donc, lorsque Saint Jean a ses visions dans l'Apocalypse, il nous dit que les cavaliers traversent l'histoire, cavaliers rouges, la guerre, cavaliers verdâtres, les épidémies, cavaliers noirs, les famines, etc. Et voilà. Il traverse l'histoire poursuivant le cavalier blanc qui était parti en tête et qui représente la prédication de l'Évangile qui traverse tous les temps. Mais Dieu laisse aller des événements qui sont comme des sanctions de l'engagement tordu de notre liberté. C'est vraiment ce qu'on peut comprendre dans l'Apocalypse et aussi à travers cet épisode de la destruction du temple qui surviendra effectivement et que Jésus n'empêchera pas, et qui sera la sanction de la façon dont la ville de Jérusalem s'est fermée à son message, et Jésus en a vraiment pleuré. Alors ensuite, les paroles de Jésus sont difficiles à cerner dans les évangiles, si vous lisez la fin des évangiles, manifestement sont imbriquées l'une dans l'autre deux perspectives, la perspective de la destruction de Jérusalem, et puis la perspective de la venue glorieuse de Jésus à la fin des temps. Et Saint Luc, lui, a voulu faire un travail de séparation des deux perspectives, et ici, il a surtout rassemblé les paroles de Jésus qui concernent la destruction du temple de Jérusalem. Et vous avez remarqué que Jésus donne des signes en parlant de guerre, en parlant de faux prophètes, en parlant de tremblements de terre, d'épidémies, de faits terrifiants, mais surtout en parlant de persécution. Toute la fin de cet évangile concerne la persécution des chrétiens. Et Jésus dit que la persécution est un signe avant-coureur de sa venue glorieuse, mais aussi de certains jugements qui traversent l'histoire. Et que la persécution des chrétiens fait partie intégrante de leur vocation, de leur mission, et que nous n'avons pas à nous en préoccuper, à en avoir peur, parce que nous aurons l'assistance du Saint-Esprit. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance ni contradiction. Mais, pour terminer, ce que je pense personnellement vraiment, c'est que ce qui est dit ici ne concerne pas une période spécifique de l'histoire, par exemple à la fin des temps. Non, c'est permanent. D'ailleurs, vous savez, avec les médias que nous avons, il suffit d'appuyer sur le bouton de notre poste, de notre télécommande de télévision pour en avoir l'aperçu en temps réel. C'est constant. C'est-à-dire que nous sommes effectivement dans les derniers temps depuis que Jésus est venu, mais il y a des jugements qui traversent l'histoire constamment, et il y a des persécutions des chrétiens constamment. En ce moment, ce sont les chrétiens d'Orient qui sont sur la sellette et qui sont persécutés, tués, et éliminés et pourchassés. Mais c'est constant tout au long de l'histoire de l'Église. Alors nous, nous sommes dans des églises bien chauffées, bien soigneusement assis, bien confortables, etc. Et pour nous, ça nous semble un peu hallucinant et bizarre. Mais pourtant, vous savez, se déclarer chrétien ouvertement dans notre société très matérialiste telle qu'elle est maintenant, et être fidèle à la vocation de son baptême dans sa vie personnelle, dans sa vie en société, dans sa vie relationnel, c'est pas si facile que ça, et ça suppose, si vraiment on veut être fidèle et ne pas être lâche, c'est pas si facile que ça, et ça suppose à certains moments la nécessité d'accepter d'être lynché publiquement, d'être tourné en dérision, d'être mis au banc, d'être repoussé, etc. Nous savons bien, et nous trouvons toutes sortes de petits accommodements à certains moments pour éviter ça. Mais c'est une autre forme de persécution qui est la forme de la persécution par le matérialisme. Il y a 36 formes de persécution, mais Jésus nous a dit que la mission évangélique aurait droit à son assistance à condition que ce soit la mission, précisément. Si nous sommes chrétiens et que nous nous tournons les pouces, je ne pense pas que le Seigneur nous aidera beaucoup à nous défendre. Mais si vraiment nous sommes en mission pour proclamer sa parole, il nous assistera profondément lorsque nous serons persécutés ou repoussés. En tout cas, c'est constant, et Jésus nous parle de persévérance. Il nous dit, c'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. Donc à nous de bien avoir dans le cœur cette perspective, et de savoir que si vraiment nous avons à cœur de partager l'évangile à d'autres, d'être missionnaires, nous n'avons rien à craindre et que le Seigneur vraiment nous assistera, même dans les pires moments. Et c'est vraiment une assurance forte qui nous est donnée par le Seigneur, et c'est quelque chose de grand, parce qu'il est toujours là à nos côtés pour nous aider, pour nous conduire, pour nous fortifier. Et nous sommes habités par son Esprit Saint, qui est notre force et notre lumière.